Quoi, Isef Claude?
Bonjour Alexis, Roger.
En deuxième partie de l'émission, on reçoit MC Snow, qui est artiste multidisciplinaire Kanigaga de Kanawagi. Donc, on va parler d'une exposition « Présence du passé » au musée McCord. Pour commencer, on a vraiment l'immense privilège de recevoir en studio avec nous Suzy Basile, docteur en sciences de l'environnement, qui est chercheuse aussi à l'UQAT et qui vient nous parler de la phase 2 d'une recherche dont elle est déjà venue nous parler. Suzy?
Quoi, Alexis?
Vraiment, Kitimigwetch, de ta présence avec nous aujourd'hui, c'est tout un honneur de t'avoir à l'émission. C'est pas un sujet facile dont on va discuter aujourd'hui depuis ta présence dans mon émission, puis le premier rapport sur la phase 1 sur les recherches, sur la recherche sur les femmes qui ont reçu des violences obstétricales, donc dont des stérilisations sans leur consentement. Je pense que ce rapport-là de recherche a reçu un accueil dans la communauté scientifique, à tout de moins. On avait un problème quand même au Québec avec le gouvernement du Québec qui disait que les stérilisations sans consentement plein éclairé, c'était pas du Québec. Quand on a commencé à en parler il y a quelques années, et entre autres, le gouvernement du Québec n'a pas voulu participer à une étude du Sénat à ce sujet-là. Est-ce que tu penses que la phase 1 de la recherche que tu as menée avec d'autres personnes a pu conscientiser puis ouvrir les yeux au moins, peut-être, j'espère, au gouvernement du Québec, mais à tout de moins à la communauté scientifique?
La question est bonne, Alexis. Juste pour faire un petit récapitulatif dans le temps, c'est à partir de 2015 où vraiment plusieurs femmes autochtones du Canada, dont des prairies de la Saskatchewan, du Manitoba, ont dénoncé des stérilisations qu'elles avaient eux-mêmes subies, puis s'en est suivie une vague de dénonciations à travers le pays. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que le sujet des stérilisations imposées et des violences obstétricales, parce que ça va souvent ensemble, puis j'y reviendrai tantôt, bien, c'était méconnu d'abord, un sujet très tabou, très intime, mais aussi très peu documenté, voire pas documenté du tout dans certaines régions comme le Québec. Donc, c'est vraiment à partir de 2018-2019 où le sujet a émergé là, dans différentes sphères.
Donc, par le biais d'une émission d'enquête, si je me rappelle bien.
Entre autres, enquête est arrivée un petit peu plus tard, est arrivée en 2021, en fait. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019, le gouvernement fédéral a mis en place une table de travail sur le sujet. Et le gouvernement du Québec a refusé de participer à cette table-là, prétextant justement qu'on n'avait jamais fait part de cas de stérilisation de femmes autochtones au Québec. Mmh. Ce que j'ai dénoncé avec des collègues dans une lettre ouverte là, à ce moment-là. Et c'est les quelques mois suivants, avec la Commission de la santé des services sociaux des Premières Nations, qu'on s'est dit qu'il était temps de documenter ce qu'on savait. Parce qu'on savait dans nos communautés, dans nos familles, qu'il y avait des cas, qu'il y avait des femmes qui avaient subi différentes sortes de violences, mais on n'avait rien d'écrit, on n'avait pas d'histoire complète, on ne savait pas l'ampleur non plus de la chose. Donc, c'est comme ça que ça a commencé en 2020.
Pendant la pandémie.
En pleine pandémie, mais ça ne nous a pas arrêtés. mais il y a aussi, il faut le dire, il faut le rappeler, le décès de Mme Joyce Echaquan qui est survenu au même moment où on mettait en place cette recherche-ci.
Oui.
Alors, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose dans le système de santé au Québec qui mériterait d'être regardé d'un petit peu plus près.
Puis, tu me permets une petite parenthèse par rapport à Joyce Echaquan. Au début, la famille ne voulait pas en parler, mais maintenant, c'est rendu public. Elle a vécu, elle aussi, ces violences-là.
Oui, tout à fait. Ça a été documenté grâce à l'enquête du coroner et avec la permission de la famille. On a documenté aussi le fait que Joyce a également subi de la pression pour accepter
un avortement.
Et une stérilisation, la ligature des trompes lors de son dernier accouchement, donc quelques mois avant son décès, en fait.
Ouais.
Ça s'ajoute au triste bilan qu'on peut faire sur le sujet.
Sur le sujet. Donc, phase 1, quels sont les constats de la phase 1?
Bien, la phase 1, ça a été la récolte de 35 témoignages de femmes et de personnes autochtones au Québec Pas en pleine pandémie, oui. Donc, on a été limité là, par les déplacements, évidemment, qu'on ne pouvait pas faire. On a dû se réfugier avec les technologies d'aujourd'hui et les quelques petites fenêtres qu'on a eues dans le temps pour se déplacer dans certaines communautés. Plusieurs femmes nous disaient, oui, j'ai une histoire à vous raconter, mais venez chez nous, j'ai besoin de vous rencontrer en personne, ce qui est tout à fait normal pour un sujet aussi sensible que celui-là. Donc, avec les 35 premiers témoignages qu'on a entendus, on a fait le constat que, justement, 22 des participantes, en fait, 63 % se sont vues offrir que la ligature des trompes comme moyen de contraception et que plusieurs d'entre elles avaient eu une ligature des trompes non consentie et aussi subi différentes formes de violence obstétricale. Ça veut dire des propos négatifs, ça veut dire des attitudes ou des bousculades physiques par le personnel médical. C'est aussi des violences sexuelles dans certains cas, des touchés vaginaux non consentis. J'ai même une femme qui nous disait s'être réveillée pendant qu'on lui faisait un toucher vaginal, ce qui est complètement inadéquat comme formule de consentement, là. Donc, tous ces témoignages-là ont été analysés et on en est venu avec un constat clair là, qu'il y a eu des manquements graves pour ce qui est du consentement libre et éclairé des femmes des Premières Nations et Inuits au Québec sur leur santé reproductive, en fait.
C'était un premier constat, c'était une première phase 1.
Et aussi, on peut ajouter à ce constat-là le fait que plusieurs d'entre elles ont, et leurs familles également, ont développé beaucoup de craintes et de peur envers le système de santé. Elles vont tout faire pour ne pas y aller. Elles ne consulteront pas pendant plusieurs années, même si elles ont des problèmes de santé, et vont éviter, en fait, de devoir se rendre à l'hôpital, sachant le traitement qu'elles risquent de rencontrer.
Un autre élément qui s'ajoute à la peur. Oui, Sophie Claude.
Pardon. Bonjour, Suzy. Moi, dans le fond, là, ce qui sort beaucoup de ça, c'est qu'il y a des préjugés, il y a un manque de formation interculturelle, ça, on pourrait dire, ou de sensibilisation par rapport à nos réalités, mais il y a certainement au-delà des biais inconscients pour apposer des gestes aussi lourds de conséquences que ça, il y a certainement quelque chose à changer là-dedans. Moi, je me demande, en tant que femme, les personnes qui savent qu'ils ont été stérilisées, comment elles font pour le savoir, à part si elles essaient d'avoir des enfants? Parce que je présume qu'il doit y avoir un pourcentage de femmes qui ne le savent pas, s'ils ont été stérilisés sans leur consentement.
En effet, ça, c'est un autre constat qu'on est obligé de faire, malheureusement. C'est que en faisant la première phase de l'étude, d'abord, on a entendu beaucoup, justement, là, de femmes nous raconter comment les préjugés à leur égard étaient tenaces. T'sais, on assume d'emblée que toutes les femmes autochtones consomment. Donc, celles qui ont des bébés ont forcément des problèmes. On les voit aussi comme des mères négligentes, hein, qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Donc, la meilleure solution, c'est de leur retirer ou encore de les ligaturer. Et ces préjugés-là sont très tenaces. Plusieurs d'entre elles se le sont carrément fait dire, là, c'est assez, là, t'as déjà 3 enfants et puis vous nous coûtez cher. Hein? Il y a aussi beaucoup ce préjugé-là qui nous précède, là, comme de quoi que les Autochtones vivent au crochet de la société. Donc, plus qu'elles se reproduisent, hein, bon, plus que ça coûte cher. Cela dit, en effet, il y a plusieurs femmes qui, durant la recherche, se sont posées des questions, se sont demandé si, au final, c'était pas ça qu'on leur avait fait. Dans certains cas, elles l'ont su assez rapidement après l'intervention en leur disant « ben, tant qu'à y être, on a procédé, on a enlevé votre utérus ». Ça, c'est arrivé. Et dans d'autres cas, on ne leur a rien dit. On va leur dire des mois ou des années plus tard, quand justement, elles essaient d'avoir un autre enfant, ça ne fonctionne pas, vont consulter et là, se font dire « mais madame, vous avez été ligaturée il y a 4 ans » et vont apprendre comme ça là, qu'on leur, on les a pas informés de leurs conditions de santé suffisamment. Donc, c'est ça.
Donc, c'est vraiment une infantilisation généralisée
des cas qu'on a entendus, des 35 cas qu'on a entendus pour la phase 1. Oui, en effet, il y avait beaucoup de ce problème de départ-là, en fait. Donc, et dans d'autres cas, c'est des femmes qui ont subi, par exemple, une hystérectomie. Ça veut dire qu'on a tout retiré à un jeune âge, ce qui fait en sorte qu'elles ont des problèmes de santé, surtout au niveau des os et des dents. Tout le système hormonal, tout le traitement plutôt hormonal n'a pas été fait adéquatement en raison du fait qu'elles n'avaient plus d'ovaires. Donc, tous ces problèmes de santé-là connexes à une stérilisation sont aujourd'hui vécus par ces femmes-là.
Les 35 personnes que vous avez interviewées à ce moment-là, ce sont des personnes autochtones au Québec?
En effet. qui nous ont contactés pour nous raconter leur histoire.
Le but de cette recherche-là, c'est de documenter justement qu'est-ce qui se passe au Québec, parce qu'on vient dire au gouvernement du Québec que c'est pas un problème existant. Est-ce que c'était un petit peu ça la motivation au départ?
Bien, c'était premièrement de donner la parole aux femmes autochtones sur ce sujet-là, qui leur est très cher, très intime. Ça, c'était la première vocation de moi comme chercheur.
Oui.
Ensuite de ça, si ça permet de documenter des problèmes comme celui-ci, bien, puis que ça fait cheminer justement les esprits et les politiques publiques, bien tant mieux, là. Mais le premier but, c'était vraiment de permettre aux femmes de partager leur vécu, puis d'ajouter à la longue liste de traumas dont on a entendu beaucoup parler dans les dernières années. Hein. Vous vous souvenez certainement, ouais. Les survivants des pensionnats, oui, mais ensuite, les enfants, les tombes anonymes, les enfants disparus dans le système de santé au Québec. Et là, on se rend compte aussi qu'il y a des femmes à travers ça qui ont subi ce type de violence-là sans en avoir parlé souvent. On est souvent les premières personnes à qui elles osent partager cette expérience-là.
Puis souvent, ça prend du temps. Moi, j'ai conscience que j'ai des clientes comme ça qui arrivent à un certain âge puis ils veulent en parler avant justement de décéder.
En effet, plusieurs femmes nous disaient, tu sais, il est temps que j'en parle peut-être à mes filles puis à mes petites filles pour pas que ça arrive à nouveau. Ça me fait penser, tu sais, à plusieurs exemples où les femmes disaient, tu sais, c'est pour ça qu'on va à l'hôpital en famille voir les gens qui sont hospitalisés, puis le personnel de la santé n'aime pas ça, ils trouvent qu'on est trop nombreux, puis qu'on fait du bruit, mais c'est parce qu'on veut pas les laisser là tout seul, on a peur pour eux autres, donc on veut être présent le plus possible, c'est une des conséquences.
De sécuriser les personnes qui vont chercher des soins dont ils ont besoin.
Exactement.
Donc, on a fait le bilan, maintenant le bilan dans la réception de ce rapport-là.
Bien, il faut dire que...
Dans la première phase.
Tout à fait, oui. Faut dire qu'on a eu une attention médiatique là, qui nous a dépassés. Là. On ne s'attendait pas du tout à cela. Là. On parle de plus de 70 articles, reportages, radio, télé, web, dans 5-6 pays différents qui ont repris les grandes conclusions de notre rapport. Il y a le Collège des médecins également hein, qui, rapidement après le lancement du rapport, m'a contacté et a mis en place un groupe de travail sur le sujet qui vient de terminer là, des travaux qui s'adressent aux médecins, justement, au Québec. C'est quand même une avancée intéressante. Là. Ça les a beaucoup secoués, ça, ils nous l'ont clairement dit, et ont décidé de passer à l'action. Il y a aussi plusieurs professeurs d'université, et je t'inclus là-dedans, qui ont inclus le rapport dans leur cursus, dans leur plan de cours. Il y a des disciplines là, où c'est pas évident là, de faire changer une ligne là, dans un vieux plan de cours, par exemple. Et là, je vois, moi, que plusieurs professeurs intègrent ces nouvelles données-là dans leur plan de cours. Et ça, c'est tant mieux. Ça, c'est une des vocations pour lesquelles je fais de la recherche.
Oui, bien moi, je suis un petit peu... je suis pas doux dans mon plan de cours. Je parle de génocide, de racisme systémique... On m'a embauché en sachant qui j'étais, j'imagine. Là. Donc,
voilà. Donc, c'est ça, les retombées, ben c'est ça. Ça ne cesse de croître depuis. On a été aussi, moi et mon étudiante, Patricia Bouchard, là, invitée à participer aux travaux d'une commission d'enquête qui a présentement lieu au Groenland, chez nos cousines inuites.
On a entendu dernièrement qu'il y avait une action, un recours collectif de femmes inuites du Groenland contre le gouvernement danois pour des stérilisations comme ça sans consentement.
Pour des contraceptions, en fait.
Contraception,
non,
OK,
non
oui.
Consenties, non donc consenties. Des poses de stérilet sans consentement des parents, parce qu'on parle de très jeunes filles, là, de 12 à 17 ans. Mais dans plusieurs cas, ça s'est transformé en stérilisation parce qu'on ne leur a jamais retiré, on n'a jamais pris soin de faire des suivis médicaux par la suite. Donc, des problèmes de santé chroniques, incluant des stérilisations.
À cause de ces contraceptions-là non consenties.
Exactement, oui. Donc, on est allé témoigner, on est allé présenter nos travaux de recherche.
Et avant qu'on passe à la pause, est-ce qu'on a eu une certaine écoute de la part du gouvernement du Québec qui niait complètement le problème au départ?
Oui, il y a eu l'émission enquête dont on a parlé tout à l'heure là, qui a amené le gouvernement du Québec à réagir et à dire qu'à partir de maintenant, c'est tolérance zéro. Là, je cite le premier ministre. Donc, par la suite... J'ai pas eu d'indication claire sur le ministère de la Santé, par exemple, et d'autres intervenants. Je sais qu'ils ont bien reçu le rapport, ça, on me l'a confirmé, mais pour la suite, on nous a proposé une rencontre éventuellement. On verra si ça pourrait avoir lieu.
Ça fait quand même un petit bout qui est déposé la phase 1 du rapport, non?
Un an et demi.
C'est long pour une rencontre. On est avec Suzy Basile, docteur en sciences de l'environnement, chercheuse aussi à l'UQAT en études autochtones. On prend une petite pause musicale, on revient après la pause.
I stand in the eye of the spiral, one of them billion, billions, billion, billions. My soul slips away from its title, one of them billion, billions. And I descend to the center of the earth. Point 618. What you gonna do in the real world, Mickey? What you gonna do when you see Milk Alley? Milk Alley, go to Milk Alley. Escape with us to the planets, to the Fleetwood Max and the Janets. Milk Alley live while in.
Alors, on écoutait Electric Fields, One Mikali, One Blood. C'est un groupe de musique électro australienne avec les vocalistes Zachariah Fielding et Michael Russ. Donc, on traite d'un sujet assez délicat et qui peut être sensible pour plusieurs. Si vous sentez le besoin, n'hésitez pas à communiquer avec la ligne d'écoute et d'espoir, qui est sans frais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les Autochtones, au 1-855-242-3317 ou 3310, pardon, 1-855-242-3310, ou vous pouvez vous brancher en ligne pour le clavardage à www.espoirpourlemieuxêtreenunmot.ca. Alors, on est de retour avec Suzy Basile.
Oui, donc professeur à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, une des autrices du rapport sur le consentement libre éclairé et les stérilisations imposées de femmes de Première Nation Inuit au Québec. On parlait de la phase 1, on a fait un récapitulatif de la phase 1. Phase 2 maintenant, on est dans le processus de la phase 2, si je comprends bien.
Oui, c'est exactement ça. Au lendemain du dépôt du rapport en novembre 2022, nous savions déjà qu'il y avait une vingtaine de femmes que nous n'avions juste pas pu rencontrer à cause de la COVID notamment, puis d'autres circonstances aussi. Et nous avons présenté les résultats en premier lieu à l'Assemblée des chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador qui ont été secoués hein, de nous entendre présenter les résultats et qui nous ont clairement dit... de demander, en fait, de continuer cette recherche-là afin d'aller entendre le maximum de personnes possibles. C'est sûr que le bouche-à-oreille puis la couverture médiatique du sujet a fait en sorte que plusieurs femmes se sont senties interpellées, ou encore des filles ou des nièces de certaines femmes qui sont aujourd'hui décédées, mais qui savaient que dans leur famille, ces événements-là étaient arrivés. Et là, nous ont contactés pour nous dire « ben moi aussi, j'ai un récit à vous raconter ». Donc, à partir de juillet dernier, le 17 juillet 2023, on a pu, avec toute la certification éthique et toute l'installation d'une recherche comme celle-ci, là, débuter la phase 2, donc partir à la rencontre des femmes qu'on n'avait pas pu rencontrer pour récolter leurs témoignages et aussi ajouter quelques questions que nous n'avions pas dans la phase 1. Des questions concernant notamment des cas d'avortement imposés. Oui, c'est arrivé ça aussi à des femmes. Mais sinon, également des questions par rapport aux possibles tests sanguins qui seraient faits sur des bébés autochtones lors de leur naissance pour vérifier s'il y a eu une consommation là, chez la mère ou encore des alertes bébés, des alertes à la naissance là, que certaines familles autochtones ont subies. Tout ça, c'est connexe à une grossesse et à un accouchement, forcément. Ça fait partie du spectre, du large spectre des violences qui est possible de rencontrer dans le système de santé. Puis on voulait mieux comprendre si ces événements-là avaient aussi eu des impacts sur la mère, sur la famille. Donc, on a ajouté là, certaines questions, justement, là, pour élargir un petit peu plus le portrait qu'on tente de faire là, de la situation des violences obstétricales au Québec.
Pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, justement, ces sujets-là, qu'est-ce qu'une alerte bébé?
C'est le fait d'appeler les services sociaux dès qu'un bébé naît en soupçonnant qu'il y a un problème à la base ou qu'il y aurait lieu d'intervenir parce que les parents sont inadéquats ou négligents ou incompétents, etc.
Ou on pense que la personne peut avoir consommé.
Aussi, ça fait partie
de... Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Moi, j'ai eu conscience d'un cas où la dame était à l'accouchement, s'est fait donner des opiacés prescrits par le médecin pour l'accouchement. Il y a eu un test sanguin sans son consentement. On a vu qu'il y avait des opiacés, mais prescrits par le médecin, et on a fait une alerte bébé. On a retiré l'enfant la mère au moment de la naissance. Et suite à cette première erreur-là, on a déterminé que la mère n'était pas apte à garder l'enfant, et l'enfant est placé aujourd'hui dans une famille d'accueil non autochtone.
Mm-hmm. Ah, je suis pas surprise d'entendre ce scénario-là. Ça a été très fréquent là, chez plusieurs nations autochtones. Les choses s'améliorent tranquillement. Il y a plus de conscientisation qui sont faites sur ces enjeux-là, mais quand même, il y a des cas assez récents là, d'alerte.
J'ai eu vent que le Québec était la dernière province à accepter, à tolérer encore les alertes bébés. Est-ce que c'est encore existant, les alertes bébés, aujourd'hui?
Bien, en fait, le gouvernement du Québec a modifié sa politique l'année passée, justement au printemps 23. Où on fait en sorte que les alertes bébés pré-naissance sont plus possibles. Donc, il faut attendre la minute 1 de la naissance du bébé pour agir ou pour appeler s'il y a lieu.
Appeler la DPJ. Bon,
ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça veut juste dire qu'on respecte les règles.
OK. On attend que le bébé soit né avant de faire l'appel à la DPJ.
Exactement. Au lieu de supposer qu'il y a des problèmes en amont.
Oui. Bon, si on revient à la phase 2 de cet important rapport-là, jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a plus de femmes que dans la première partie qui se sont mises en disposition pour pouvoir venir témoigner?
Malheureusement, je dois dire que oui. Nous sommes un petit peu dépassés par les événements. On a quand même un très grand nombre de femmes qui nous ont contactées et qu'on a rencontrées, soit en personne ou encore en mode virtuel. Certaines d'entre elles préfèrent rester chez elles dans leur intimité pour nous parler. Donc, on laisse évidemment la porte ouverte au Zoom de ce monde et tout ça. Mais en effet, on est très occupés, je vais le dire comme ça. Ce n'est pas que des cas de stérilisation imposée, beaucoup de cas de violence obstétricale ou encore des femmes qui se demandent « mais est-ce que mon histoire entre dans vos catégories? » Puis la grande majorité du temps, c'est tout à fait oui, elles ont sous-estimé souvent l'ampleur de ces violences-là, puis c'est maintenant qu'elles s'en rendent compte. Donc, on va être passablement occupé dans les prochains mois pour analyser tout ça, puis faire un portrait encore plus complet de la situation au Québec.
On pense faire la recherche encore pendant combien de temps?
On s'était donné la date du 31 mars prochain pour cesser la collecte des témoignages, mais la porte n'est pas fermée au 1er avril. Là, si quelqu'un nous contacte, évidemment, on va l'écouter, mais il faut procéder à l'analyse de tout ce qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est très demandant.
Est-ce qu'on prévoit une phase 3?
On verra. Pour le moment, on croit avoir rencontré pas mal tout le monde qu'on devait rencontrer, bien qu'il y a peut-être encore, à l'heure où on se parle, des personnes qui se demandent si c'est pas arrivé dans leur famille aussi. Donc, il y a des possibilités aussi pour ces femmes-là de pouvoir faire des démarches pour obtenir leur dossier médical, pour essayer de voir s'il n'y a pas là des réponses à des questions qu'elles se posent depuis longtemps. Donc, on verra. Je dis pas non, mais on verra.
On documente, on fait ressortir la parole de ces femmes-là. Est-ce qu'il y a moyen pour ces femmes-là d'aller chercher un peu de justice?
Bien, il y a présentement un recours collectif qui a été intenté par 12 femmes à Tikamek.
Oui, ça, j'en avais entendu parler, oui.
Une stérilisation imposée à l'hôpital de Joliette, plus précisément. Donc ça, c'est un recours collectif qui a lieu depuis... Bien, qui a été accepté, en fait, par la Cour en août dernier.
Oui.
C'est une démarche... spécifique
à la nation
du
Québec, ouais.
Parce que ces recours collectifs-là, ça marche par lieu, en fait. C'est un hôpital à la fois, si vous voulez. Ça ne peut pas être pour un ensemble de femmes, il faut que ce soit dans un lieu précis. Je ne suis pas juriste, là, mais c'est ce qu'on nous a bien expliqué. Donc, il n'est pas dit qu'il n'y en aurait pas d'autres pour d'autres hôpitaux. On verra bien. Mais on n'est pas impliqué de près, nous, avec les actions de cours, mais on donne l'information.
Oui, les témoignages doivent être importants quand même, la récolte des données et tout ça. En terminant, qu'est-ce que vous souhaitez que ces témoignages-là puis ces recherches-là puissent avoir comme impact à long terme?
Bien, mon premier souhait, ça a toujours été qu'enfin, on croit les femmes autochtones quand elles osent prendre la parole sur des sujets aussi sensibles que celui-là. Ça, c'est un souhait autant personnel que professionnel en ce qui me concerne, parce qu'on nous a longtemps ridiculisés quand on dénonçait des situations X, Y, Z. Donc, ça, au moins, j'espère que ça peut finir par cesser. Et moi, mon boulot, c'est de documenter et de prouver, en effet, que ces événements-là ont bel et bien eu lieu avec cette parole-là que les femmes ont, avec grand courage, ont accepté de nous partager. Puis à long terme, bien, c'est que la révision de la formation du personnel médical en général soit revue en conséquence de ça, qu'on laisse les préjugés dans le stationnement des hôpitaux et qu'on traite avec dignité tout le monde, en fait, incluant les femmes autochtones.
Vous avez fait votre spécialisation dans le rôle des femmes autochtones dans la gouvernance de territoire. Au point de vue de la gouvernance, est-ce qu'il y a des éléments travaillés pour qu'on ait plus de place, les peuples autochtones, dans la gouvernance de notre santé?
C'est une bonne question. Justement, j'ai fait des liens avec le temps, hein, et les recherches que j'ai menées sur d'autres sujets connexes aussi, dont un sur la consolidation du lien au territoire par la grossesse et l'accouchement, en faisant une série d'entrevues avec des femmes aînées aujourd'hui qui ont connu l'époque où on accouchait encore dans le bois, ont connu l'époque de la transition vers les réserves, les communautés d'aujourd'hui, puis ont eu leur dernier bébé à l'hôpital. Donc, d'entendre leur récit fascinant de leur expérience de justement grossesse et accouchement pour lesquels on leur a retiré, en fait, leur pouvoir d'action puis leur pouvoir de décider de comment j'accouche puis où j'accouche. Fait que toutes ces conséquences-là, évidemment, ça a un lien direct avec moi, selon moi du moins, avec la gouvernance d'aujourd'hui. T'sais, on pourrait peut-être commencer par récupérer notre santé reproductive, décider comment est-ce qu'on a nos bébés, puis après ça, on va les élever à notre manière.
Suzy Basile, docteur en sciences de l'environnement, spécialisée dans le rôle des femmes autochtones dans la gouvernance du territoire, professeure à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec, chercheuse, une des autrices du rapport sur le consentement libre éclairé et stérilisation imposée de femmes des Premières Nations Inuits. Kitimigwetch, c'était fort instructif. On va suivre le dossier de proche, puis il va peut-être falloir se réinviter pour peut-être parler aussi de la grande femme que Suzy Basile est, peut-être une entrevue un petit peu plus personnelle, parce que je suis sûr qu'il y a des choses à apprendre aussi. Là.
C'est moi qui vous remercie, Kitimigwetch.
Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller.
OK, donc on est de retour avec MC Snow, artiste multidisciplinaire qui est un Kanawake de Kanawake. MC Snow détient un baccalauréat en arts visuels de l'Université d'Ottawa. Il travaille puis expose aux États-Unis puis au Canada depuis les années 90. Son travail est principalement sculptural. Il allie des techniques et des matériaux traditionnels. Il vient nous parler aujourd'hui de l'exposition Présence du passé de l'artiste MC Snow, bien sûr, dans le cadre de la Biennale d'art contemporain au musée Michael Stewart du 1er mars au 18 août 2024.
Bonjour MC.
Oui, bonjour, comment ça va?
Quoi?
Ça va super bien. Comment ça va toi?
Ah, mais ça va, c'est une belle journée, puis je suis bien contente d'être ici.
On est vraiment content que tu sois là avec nous. Moi, j'ai eu la chance d'être présente au vernissage de l'exposition au musée McCord à la fin février, début mars dernier. On rappelle, l'exposition, elle a commencé en mars et ça va être quand même exposé jusqu'au 18 août. Donc, les gens auront la chance d'aller voir ça, de visiter ça. Moi, et ma première question par rapport à cette exposition-là de Présence du passé, pourquoi est-ce que c'est important de faire ça avec la Biennale d'art contemporain et le Musée McCord? Pourquoi ces partenaires-là, tout d'abord?
Parce que, ben moi, je dirais que la BACA, la biennale, c'est quelque chose que pour les artistes autochtones, puis ça nous rassemble. C'est vraiment un rassemblement d'artistes du pays. Donc, c'est vraiment important pour nous autres de se reconnaître comme ça, puis d'essayer de faire notre présence connue, puis d'avoir, quand on a l'opportunité d'avoir, de parler ou de montrer nos projets, c'est important de prendre sa voix, puis de se mettre là, de le faire. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez
important. De prendre sa place.
Oui, de prendre sa place, c'est ça. fait que j'étais bien contente de travailler avec le musée McCord. Là, c'était une grosse... un projet que je rêvais de faire depuis mon enfance. Depuis mon enfance, ce qu'on avait, on n'avait pas l'Internet. Fait qu'on voyait juste ça dans les livres, les photos, puis des collections autochtones des musées, puis comme ça. Donc, mon inspiration, c'était toujours pris des vieilles photos, des vieilles images. Puis finalement, là, j'ai eu l'opportunité d'aller au musée, puis d'aller plonger dans leur collection. Puis c'était vraiment quelque chose de spécial.
Mais c'est vraiment unique de pouvoir aller plonger dans la collection de culture autochtone d'un musée. Donc, ouais. Vous avez choisi certains objets, certaines pièces, dans le fond, de cette collection de culture autochtone-là, et vous l'avez intégré dans l'exposition. Il y a aussi d'autres objets qui ont été créés, là. Ce ne sont pas juste des morceaux de la collection de culture autochtone qui sont là. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces objets-là? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire des sculptures aussi? Et comment vous avez fait le tri? Parce que c'est clair qu'ils ont une grosse collection, Musée McCord.
Ah oui. Uh-huh. Oui, bien, mon idée, c'était de présenter quelque chose qui parlait un peu de l'expérience que j'ai faite dans la ville de Montréal pour le projet Peel. Donc, j'avais fait on a fait une installation récemment, c'est pas encore ouvert officiellement, mais sur la rue Peel. Moi puis l'artiste Kiora Rendenko, on a travaillé avec la ville de Montréal pour mettre un projet comme un parcours comment on dit ça?
C'est un parcours d'œuvres d'art, parce que moi, je l'ai vu sur la rue Peel. Je me promène souvent dans le centre-ville, puis c'est des sphères en bronze.
Ça raconte toute une histoire, l'histoire de la création, l'histoire, c'est vraiment comme une illustration de notre prière, ça s'appelle les mots avant tout. Et c'est quelque chose, c'est comme une prière cérémoniale qu'on fait avant chaque ouverture, des ouvertures importantes.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Puis,
oui, que ce soit pour des, ça peut être pour des cérémonies ou pour des lieux ou pour des oui, oui.
Ouais. Mm-hmm. Donc, après avoir travaillé sur ce projet-là, j'ai rencontré des archéologues et des muséologues parce que comme vous savez, quand ils étaient en train de démonter la rue Peel, ils ont trouvé des artefacts, puis comme des restants d'un ancien village iroquois pendant qu'ils creusaient les rues. Puis, c'est ça, en fait, qui a commencé nos idées pour le projet Peel, mais aussi, comme ça fait comme 7 années que je travaille là-dessus, j'étais encore vraiment dans ce feeling-là de faire des œuvres qui comme représentent notre passé. Alors, quand j'ai rentré pour voir la collection à McCord, c'était comme des objets qui venaient qui me cherchaient l'œil, là, qui me parlaient. C'était des objets comme porteurs de voix, comme qu'on a vu sur la rue Peel, les trouvailles qu'ils ont trouvées. C'est des objets qui portent une voix du passé, puis ça, c'est là pour nous informer. Donc, mon idée, c'était de partir avec des objets, puis d'avoir comme cette idée-là que les objets, ça parle. Tous les objets ont une voix. Mmh. Il suffit juste de les entendre, tu sais, pour savoir de quoi ce qu'ils parlent, puis qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, puis c'est les morceaux de pièces, puis les morceaux cassés, puis les pièces qui manquent de ces morceaux-là, comme les pots cassés que je représente dans mes œuvres, c'est comme, ils sont tous cassés, il y a des cracks, il y a des parties qui manquent, puis c'est ça que je me demandais, les parties qui manquent, là, c'est aussi important que les parties qu'on a retrouvées. Donc, ça va tout ensemble. C'était ça mon concept.
Oui, parce que les... Mm-hmm. Oui, c'est ça, parce que les parties qui manquent, dans le fond, racontent une histoire de qu'est-ce qui s'est passé à l'objet pour qu'il y ait une partie qui manque en ce moment. Puis, on peut faire un parallèle avec notre culture puis notre existence, très certainement.
Oui, c'est justement ça. C'est ça que je voulais faire. Donc, quand on regardait dans les tiroirs pour choisir les objets, c'est des objets comme ça qui m'attiraient, comme c'était des objets porteurs. Donc, c'était des vaisseaux, des pots en argile, des anciens pots qu'on faisait sur le côte du fleuve Saint-Laurent. On faisait ça avec l'argile de la rivière, puis on construisait ces pots-là pour... on mettait plusieurs choses dedans, mais c'est comme ça porte nos idées, ça porte nos cultures, comme des pots, des vaisseaux, des paniers. J'ai aussi j'ai trouvé des portes bébés dans la collection, alors on a fait exposer une dizaine de ces objets-là, les porte-bébés, parce qu'eux autres aussi, c'est des objets porteurs de voix, porteurs de culture, parce que c'est à nos enfants qu'on explique puis qu'on enseigne nos façons de vivre, puis c'est eux autres qui vont porter ça dans le futur. Donc, tu sais, on porte nos bébés sur nos dos, puis ensuite, c'est les bébés puis qui deviennent des enfants, qui deviennent des adultes, qui vont porter notre culture.
C'est vraiment profond comme message. Puis dans les mois qui viennent, en mai, en avril aussi, il va y avoir différents ateliers. Il va y avoir un atelier d'initiation à la poterie iroquoienne. Oui. Donc ça va être le 27 avril pour cet atelier-là vous allez animer aussi oui, il va avoir
C'est moi qui vais animer, oui puis on espère avoir des parents avec leurs enfants aussi pour que ça soit comme un événement familial, ça va être le fun.
L'invitation est lancée à nos auditeurs, certainement. Il va y avoir aussi une table ronde au musée et en ligne le 10 avril. Ça va être avec, bien sûr, M.C. Snow, l'archéologue Roland Tremblay, puis le conservateur du musée McCord, conservateur autochtone Jonathan Lainé. Puis aussi, vous parliez un peu plus tôt, les sphères, dans le fond, là, sur le parcours PIL, qui s'appelle Parcours nos récits, notre voix, précisément. Le 11 mai, il y a deux visites en compagnie de vous et de Kira Revenko aussi. Donc, il va y avoir des dialogues et des explications qui racontent l'histoire, là, justement, de la cohabitation des Européens et des Iroquois sur l'île de Montréal. Mm-hmm. Donc, ça, c'est bienvenu à tout le monde, tant autochtone que non autochtone. Ça peut être une bonne occasion de se rencontrer.
Ah oui, certainement.
Puis,
Oui, donc, moi, les ateliers de fabrication de poterie, on passe donc du passé au présent puis au futur, à la création. C'est quoi que vous souhaitez transmettre dans ces ateliers-là à des personnes autochtones et non autochtones qui vont venir apprendre les techniques de poterie de Kanigaga?
Je pense que vraiment, c'est travailler avec les matériels traditionnels, avoir les mains là-dessus sur ces produits-là qui viennent de la terre, qui viennent comme donner le message de la terre directement à nos esprits pour construire quelque chose. Donc, pour faire une création d'argile, c'est comme la transmission d'esprit de la terre. Au créateur, ben à la personne qui est en train de faire construire l'objet. Alors c'est cette manière là de construire une poterie pour comment on dirait ça,
pour transmettre un peu son âme ou transmettre des éléments de
oui c'est comme un feeling qui est comme dur à mettre dans des mots parce que c'est vraiment
un processus artistique où on met un peu nos tripes sur la table. Ça se peut-tu?
Oui. Oui, c'est quelque chose qu'on peut juste justifier avec nos âmes, avec nos mains qui travaillent sur le matériel. Donc, c'est vraiment entre le matériel et la personne qui la manipule. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toucher. C'est pas ça vient difficilement à en faire des mots.
Puis ça, c'est tous les samedis de 10h30 à 13h30 du 27 avril au 17 août. Est-ce que vous êtes l'animateur de chacune de ces sessions-là?
Chacune, non, mais j'ai travaillé avec l'équipe du musée, puis on a fait le projet ensemble, on a fait l'atelier ensemble, puis c'est eux autres qui vont le faire pour moi quand je suis pas là. Puis je vais essayer d'être présent au plus possible pour pouvoir participer avec eux.
Parce que c'est vraiment un rapport intéressant avec la terre, justement, quand on touche de l'argile. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de sculptures quand j'étais plus jeune, puis c'est vraiment un lien, justement, avec la terre qui est assez organique. Puis c'est assez reposant, aussi relaxant de manipuler de l'argile. On rappelle que ces ateliers-là sont offerts en français et en anglais, que c'est bienvenu à tous, tout le monde de tous âges. Pour les enfants en bas de 5 ans, on demande que les parents soient présents, bien sûr. En terminant, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui se demandent s'ils devraient aller voir l'exposition au Musée McCord ou de prendre part aux ateliers de poterie?
Je pense que ça vaut vraiment la peine juste pour aller au musée simplement puis voir leur collection. Les morceaux que j'ai sortis, les morceaux des collections, pour moi, c'était spécial de les faire comme on dirait que ça leur donne une nouvelle vie, une nouvelle voix, puis de les voir comme assemblés comme ça, pas pour comme objet de muséal, mais comme objet installé avec les objets d'art, c'est comme les voir différemment. Donc c'est une façon de voir les objets comme avec dans un outlook différent, comme
avec une perspective différente. MC Snow, c'est déjà la fin de notre entrevue. C'était vraiment très, très intéressant. Puis j'invite moi aussi personnellement tout le monde à aller voir cette exposition-là qui est vraiment très riche et qui raconte beaucoup, pas nécessairement avec des mots, justement, comme MC le mentionne.
Niaouen.
Niaouen, merci beaucoup.
Niaou beaucoup. Merci.
If people choose to live where there's no jobs, obviously it's very, very difficult to close the gap. It's not the job of the taxpayer to subsidize lifestyle choices.
The way you weigh your freedom when it's heavy with opinions I've heard. Burdened by decisions, see it restricting your vision to learn. Liberty can make you distant, so just step inside the sentence I serve. Feel the beating in my prison, there's no difference but the distance between their words. I'm always drowning.
I'm caught in your new religion, full of hope and contradiction to serve. We move to play the victim, but the script is not yet written. Still we watch it burn. I'm always drowning. And all I could see was they see your faces. I'm always drowning.
Alors, on écoutait Miesha avec sa chanson « Drowning ». Miesha Rose Young est connue vraiment sous le nom de Miesha. Elle est une auteure, compositrice, interprète australienne, elle aussi, de la communauté aborigène de Woorabinda dans le Queensland. Donc, j'avais une thématique de musique australienne aborigène cette semaine.
Sophie Claude? Les actualités, oui. On va encore parler des fraudes identitaires. Qu'est-ce qui se passe au Labrador chez les Inuits et les Innus?
Oui, bien en fait, c'est ça, c'est la Nation Innu qui a émis un communiqué en date du 19 mars dernier. Et donc, c'est vraiment où est-ce que ça couvre toute la péninsule du Québec-Labrador. Et ils déplorent le fait qu'en 2024, en plus d'avoir à se battre pour leurs droits ancestraux et leurs droits de traité, le gouvernement ont quand même signé des MOU, des Memorandum of Understanding entre le Canada et la communauté qui s'appelle le Nunatukavut. Et donc, c'est ce groupe-là qui se dit Inuit. En fait, ont des demandes territoriales qui entrent en conflit avec celles de la Nation Innu. Donc, c'est vraiment les chefs de la Nation Innu du Nitassinan Labrador qui demandent que leurs droits soient respectés. Et vraiment, ils sont contre ce qui a été offert, dans le fond, cette entente-là qui a été signée avec le gouvernement. Ils sont très critiques de ça. Et en contrepartie, toujours dans le même dossier, il y a Inuit Tapirit Kanatami, donc qu'on surnomme souvent ITK. Ils supportent, c'est un peu le gouvernement de la nation Inuit, mais partout au cercle polaire. Et donc, eux, ils les supportent aussi parce qu'ils sont allés en cour fédérale, la nation Inuit va en cour fédérale pour renverser la décision du Memorandum of Understanding entre le gouvernement fédéral et le Nunatukavut Community Council. Donc, c'est vraiment pour eux, selon ITK, dans le fond, ils disent que c'est vraiment une autre entente qui est un exemple de menace par des groupes non autochtones qui veulent avoir des identités autochtones. Et donc, pour citer le président de le président Nathan Obed, il dit qu'ils appellent le Canada à respecter les droits inuits en mettant fin à leur relation avec le Nunatukavut, à ne pas confondre, Community Council et ses organisations semblables dans le but de reconnaître les personnes autochtones comme étant les personnes qui ont ces droits-là et non pas les octroyer à d'autres
D'autres
personnes qui ont
groupes, ouais.
peut-être avec des origines questionnables, disons-le,
Questionnaire, ouais.
c'est ça. Oui.
On le voit, on a vu aussi dernièrement un juge de la Colombie-Britannique qui dit qu'il devrait y avoir un tsunami, justement, de causes judiciaires reliées à des fraudes autochtones. C'est une conscientisation qui se fait dans les organisations, dans les institutions scolaires et aussi d'un
Oui.
point de vue judiciaire. Donc, il va sûrement continuer à avoir beaucoup de développement à cet égard dans les prochaines années ou dans les prochains mois.
Oui, parce que dans le cas du BC, là, c'était quelqu'un qui était reconnu coupable d'une offense. Et c'est que plusieurs ont l'impression qu'en déclarant qu'ils sont autochtones, quand ils vont aller dans le système judiciaire, ils vont avoir certaines permissions ou des droits différents. Et c'est pour ça qu'ils, là, tout d'un coup, là,
Oui, puis ces
ils font ces déclarations-là.
autodéclarations-là se font, oui, au moment où on est accusé, mais se font aussi en prison,
Oui.
Dans le pénitencier, dans la mesure où il y a des services particuliers pour les personnes autochtones, entre autres des services culturels pour se reconnecter à leur culture, se reconnecter à une voie qui est plus proche justement de leurs racines pour leur permettre une meilleure guérison. Et on va trouver aussi beaucoup de personnes qui vont s'auto-déclarer autochtones pour bénéficier de ces services-là.
Oui, j'ai connu des gens qui travaillaient en pénitencier et décriaient la même situation que tu parles, hein, oui.
Côte-Nord, Sept-Îles, une femme retrouvée sans vie. On a fait un rassemblement le 13 mars dernier à Wahat pour souligner justement ce. Cette femme-là, la vie de cette femme-là, puis t'en en parler parce que il faut se rappeler que on montre beaucoup de lumière dans notre émission sur les peuples autochtones, beaucoup de fierté, beaucoup d'éléments, puis d'autres éléments plus sombres comme aujourd'hui quand on a parlé des stérilisations sur les femmes autochtones sans leur plein consentement. Mais c'est un élément qui revient souvent quand on est proche de nos amis, nos communautés. La mort rôde souvent.
Oui, malheureusement, on le sait déjà, on a déjà un taux de mortalité. Nos chances, statistiquement, on n'a pas. Surtout, mettons, pour les femmes, nos chances de mourir de mort violente sont assez. beaucoup plus importantes que celles de la population générale. Et malheureusement, dans des petites communautés, c'est un peu l'effet de petit village. Tout le monde se connaît. Donc, quand quelqu'un décède, ça impacte toute la communauté au complet.
L'impact est plus grand encore.
Oui, définitivement.
Parlant de risque, la rougeole qui s'annonce à Montréal, on vient dire que les communautés autochtones sont plus à risque encore.
Oui, malheureusement, c'est la rougeole, on le rappelle, qui peut être contractée de façon respiratoire aussi. Donc, il y a quand même des campagnes là, par la santé publique là, qui sont en train de se dérouler un peu partout, qui sont en processus. Parce que comme tu le sais, je travaille pour le conseil de santé CRI de la baie James,
Oui.
donc on suit le dossier. Et oui, en fait, c'est que des fois, il va y avoir les taux de vaccination qui ne seront pas assez hauts pour bien protéger l'ensemble de la communauté. Aussi, une méfiance par rapport au système de santé. Est-ce que c'est bien véridique? Est-ce que c'est vraiment c'est ça qui se passe? Donc, je pense que c'est vraiment la proximité aussi qu'on a dans les maisons qui sont surpeuplées. Donc, tout ça entre en ligne de compte
On pensait,
pour.
entre autres maladies transmises respiratoires, la tuberculose circule dans certaines de nos communautés. Donc, il y a des maladies qu'on pense qui sont éradiquées, qui circulent encore chez nos membres. Dernière nouvelle,
Malheureusement.
une famille lance un recours collectif contre Ottawa pour les impacts intergénérationnels des pensionnats. Donc, il y a eu des compensations pour les individus qui sont allés au pensionnat, mais pas de compensation pour les impacts contre les communautés, puis pas de compensation non plus pour les descendants des personnes qui ont été dans ces pensionnats.
Comme moi. Comme ouais. Moi, là, mon père est allé en pensionnat. Donc, je vais suivre ça de près. Peut-être qu'on pourra en parler avec plus de détails avec des gens qui pourraient me donner plus d'informations pour ça.
Émission 121 avec Sophie-Claude Miller.
Et moi, Alexis Wawanoloat.
Mathieu Tessé à la régie, Claire Guérin et Sylvestre Desterres à la recherche. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.